Rhume 90.7, nouvel entretien Confluence Cinéma, comme chaque mercredi, avec bien entendu Raphaël Lorenzo et Hakim Fdaouche. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir à tous.
Alors, au programme aujourd'hui, on va chroniquer donc Captain America, film des frères Russo. Tu vas nous parler, Raphaël, du film de John Turturro, c'est ça ?
Oui, Apprenti Gigolo, avec Woody Allen, entre autres.
Ok. Dans la deuxième partie, ce sera un peu spécial. Il n'y aura pas vraiment un débat autour d'un film. Mais par contre, on parlera du festival Les Hallucinations Collectives qui se déroulera au Comédia.
Qui commence à devenir un petit événement quand même lyonnais qui est attendu d'année en année. Hein.
Oui, qui a commencé en 2008-2009, ouais. Qui est parti de rien du tout et qui, depuis deux ans, explose littéralement grâce à Cyril Lespantin qui profite de son expérience à Paris avec le PIF en ramenant beaucoup, beaucoup de célébrités à Lyon en période de Pâques.
Et dans la dernière partie, du coup, on reviendra un petit peu sur les adaptations cinématographiques qui ont été tirées de jeux vidéo.
Donc oui, puisque sort Need for Speed actuellement.
Voilà, c'est ça. Du coup, il y a pas mal de tapage là-dessus. Donc, on s'est dit que c'était intéressant aussi, parce que c'est vrai que c'est un genre, le jeu vidéo, qui a alimenté le cinéma, mine de rien, cette dernière décennie. Donc, qui c'est qui commence ? Alors, Raphaël, tu vas nous parler de ce fameux film de John Turturro.
Alors oui, je ne savais pas que John Turturro réalisait des films. C'est son sixième film, déjà, je crois. Il a réalisé un film qui s'appelait Illuminata il y a ça, un peu moins de 10 ans, je crois que c'est en 98, donc plus de 10 ans. Et il avait réalisé un film avec James Gandolfini, encore une fois, qui s'appelait aussi Romance and Cigarettes, des films très new-yorkais. Et là, il nous revient donc avec Fading Gigolo, Apprenti Gigolo en français, avec un sacré casting quand même, puisqu'il réunit Woody Allen, Vanessa Paradis, la magnifique Sofia Vergara et Sharon Stone. D'ailleurs, Sharon Stone qui avait commencé chez Woody Allen dans Stardust Memories, hein, donc c'est un peu les retrouvailles entre les deux. Hein. Et le film, déjà, à la base, l'idée est déjà marrante, c'est Woody Allen qui est un retraité, un libraire retraité. Hein. Il s'ennuie un petit peu et il va proposer à l'un de ses amis, donc incarné par John Turturro, qui est floriste tous les jours, de devenir en fait un gigolo, puisque sa podologue incarnée par Sharon Stone veut un ménage à trois avec sa meilleure amie et un homme. Et à partir de là, Woody Allen va devenir le macro de John Turturro. Il va lui faire rencontrer beaucoup de femmes, ils vont gagner beaucoup d'argent tous les deux. Et progressivement, Turturro va rencontrer une jeune veuve, incarnée par Vanessa Paradis, qui vient perdre son mari, qui était rabbin deux ans auparavant. Et il va tomber progressivement amoureux d'elle dans les quartiers juifs de Brooklyn, à New York. Alors, déjà, moi, sur le papier, voir Woody Allen en macro, déjà, moi qui suis fan de Woody Allen et vis-à-vis du personnage, je trouve ça déjà hilarant sur le papier. Et il va jusqu'au bout de son idée, notre ami Turturro, en donnant des noms assez drôles à ses gigolos. Donc, il s'appelle Dan Bungo dans le film, du coup, Woody Allen. Et lui, si je me rappelle bien, c'est Virgil Howard. Donc, vraiment des noms assez virils pour rencontrer ces dames. Et le film est vraiment très, très drôle. Il y a tout un procès à la fin du film avec Woody Allen qui se fait arrêter par les juifs vraiment très pratiques. Très extrémiste, il y a cette réplique qui fait mais qu'est-ce qui s'est passé, je suis circoncis alors pourquoi vous m'arrêtez, tu vois, c'est que des répliques comme ça très très drôles. Et en même temps on va glisser progressivement dans le film vers une pure histoire d'amour très bien filmée, toujours très près des corps, très sensuelle entre Vanessa Paradis et John Turturro, et c'est très bien emmené. Il y a des très belles peintures, on pourrait dire filmiques. C'est filmé en automne, donc on voit toutes les feuilles qui tombent, il y a un univers à Brooklyn, une atmosphère très très juive, très orthodoxe, qui est très plaisante. Moi j'adore cet humour là, cet humour juif new-yorkais dépressif, donc on est vraiment en terrain conquis hein, quand on aime ça. Et voilà, il s'inscrit vraiment dans la tradition de Woody Allen hein. Le générique reprend plus ou moins voilà, le côté jazzy, la typographie blanche, les vues de New York, et voilà, c'est un film qui est assez plaisant, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui revendique une certaine tradition de l'humour juif, et rien que pour ça, ça m'a plu.
Et Sharon Stone, comment elle est ?
Elle est toujours aussi belle.
Elle a plus de 50 ans.
Elle vieillit, elle a quasiment 60 ans maintenant. Enfin, elle a 55 ans, elle se rapproche petit à petit des 60 ans.
C'est une actrice qui a commencé sur le tard. Hein. Elle a commencé en jouant avec, dans les Alan Quatermain, en jouant avec Nico. Donc elle était la compagne de Steven Seagal dans Nico. Ouais. Et il a fallu attendre Sicking Sting.
Total Recall aussi avant.
Total Recall, c'était pas non plus le film.
Oui, elle avait un petit rôle.
Elle était quand même un peu masquée par la corpulence et le statut de star de Schwarzenegger. Mais c'est justement un autre film de Paul Verhoeven, Sicking Sting, qui va la rendre célèbre. Quand elle monte les marches marche de Cannes pour Basic Instinct en 92, elle est inconnue, elle redescend des marches, elle est...
C'est la magie de Cannes.
C'est la nouvelle star planétaire du cinéma, la magie de Cannes, comme tu dis. Et ouais, elle a commencé sur le tard, elle a connu 30, 35 ans, à l'instar des Brad Pitt, etc., etc.
Enfin, en tout cas, ouais, beau casting, beau film, et surtout très drôle et très beau.
Ok, donc à voir. Alors de ton côté, Hakim, oui. Tu es allé voir Captain America.
Oui, oui, que je devais voir déjà depuis quelques temps et que, ben, faute d'emploi du temps, ben, j'ai pu voir que maintenant, que aujourd'hui. Captain America, le soldat de l'hiver, hein, réalisé par les frères Russo, qui avaient réalisé Bienvenue à Collinwood, que je n'ai pas vu, donc c'est pas le même réalisateur que le premier film, qui avait plutôt bien marché, hein, donc une adaptation du héros Marvel qui a mis du temps à se concrétiser, même si dans les 90 il y avait déjà eu une adaptation qui n'avait pas été très terrible. Et là, ça a été un gros succès. Alors, ce film, c'est une suite, mais en avance sur le temps, car à la fin du premier Captain America, on était à la fin des années 45, c'est pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, on est de nos jours. Captain America, qui officiellement a disparu du grand public, il y a même un musée qui honore sa mémoire avec ses costumes, où tout le public américain peut visiter. Captain America travaille pour le SHIELD, qui a été créé par le père...
Nick Fury, incarné par Samuel Jackson.
Voilà, non, mais le créateur, c'est Star, c'est le père de.
Ah, c'est Stan Lee, tu veux dire ?
Non, non, le père de Iron Man.
Ah oui, Tony Stark, mais du coup, son nom,
voilà,
Howard Stark.
Voilà, c'est lui qui a confondu le SHIELD, qui est grosso modo une opération, une organisme qui est censé combattre le terrorisme. Et il travaille clandestinement sans être reconnu par la population américaine. Et là va arriver un grand événement, c'est que justement le personnage de Samuel Jackson qu'on a vu dans les autres Marvel, hein, parce que là c'est plus ou moins. Il y a le personnage de Scott Johnson des Avengers qui est
gagnant. Trait d'union entre tous les films Marvel.
Voilà, exactement, trait d'union entre tous les films de la Marvel. Il n'y a pas Hulk, bien entendu, ni Iron Man. Mais le personnage de Samuel Jackson va se retrouver attaqué, comme ça par hasard, par les flics. Et on va comprendre que l'autre numéro 1 de l'entreprise The Shield, interprété par Robert Redford, qui dans l'histoire est un de ses meilleurs amis, avait commandité l'affaire car je dévoile un tout petit peu hein, la base de l'intrigue.
On l'avait deviné tout de suite en racontant l'histoire.
Un des personnages présents dans le premier épisode, qui était un médecin nazi, a pu être récupéré par les services américains, comme ce fut le cas pour bon nombre nazis après la Seconde Guerre mondiale, et a travaillé au sein du SHIELD pour incorporer une structure pour combattre combattre le terrorisme et grosso modo répandre une idéologie nazie, on va dire, grosso modo, voilà ça. Et qu'est-ce que fait Captain America là-dedans ? Bah, on le voit, il est présent, il combat notamment un soldat des neiges qui arrive par là et qui s'avère être un ancien compagnon à lui, et on apprend ça par la suite. Mais contrairement à l'instar de beaucoup de films super-héros qui ont fait leur entrée à la fin des années 2010, je pense à Batman, même si ce n'est pas un super-héros, ou même James Bond, ce personnage-là, Captain America, est dépourvu de l'icône, de l'aura du super-héros qu'il jouissait dans le premier épisode. C'est-à-dire qu'on le voit comme un citoyen normal, il n'a pratiquement jamais son costume. Il y a une certaine désacralisation du super-héros qui perdure depuis quelques années. Là, c'est encore le cas. Moi, je trouve que c'est plutôt assez bien réussi. On est plus dans le film d'espionnage à la Trésor du Condor ou à l'homme du président, d'ailleurs, il y a Robert Redford qui est là pour le rappeler, que dans le film pur de super-héros. C'est un film assez noir, assez pessimiste. La fin, je ne vais pas la dévoiler, mais très clairement, c'est le lien avec le troisième épisode qui va arriver très rapidement. Ça sera sûrement
qui sortira chose. En même temps que Batman contre Superman.
D'accord.
Ils seront face à face.
Ah ouais, donc ça va être la grosse
DC contre Marvel.
Et moi, mine de rien, c'était déjà le cas pour le premier Captain America, alors que c'est un personnage qui ne m'intéresse pas forcément. J'ai pas lu les BD, c'est pas un héros qui me fascine. Mais cette nouvelle directive, directive pour ce super-héros m'intéresse. Je veux dire, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ce qui était déjà un peu le cas pour ce que j'avais éprouvé pour le Hobbit 2. J'étais assez curieux de voir quel était le nouvel angle utilisé qui va être choisi par Peter Jackson. Donc moi, j'attends avec impatience le troisième épisode. Je ne sais pas si ce sera du même envergure, si ce sera aussi spectaculaire que ça, parce que là, les cascades, les courses-poursuites, les explosions, c'est à gogo, hein, c'est en pleine rue, c'est à Washington. C'est quand même du beau spectacle, il n'y a que les Américains qui savent faire ça. Même si c'est pas le scénario de l'année, c'est quand même du très bon divertissement et on passe vraiment 2 heures de pur plaisir sans regarder sa montre. Moi, franchement, si on peut avoir ça tout le temps, ça me plaît.
Je préfère voir Woody Allen avec une cape.
Ah, moi, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil.
Tu es super névrosé, ça serait pas mal avec Woody Allen.
Mais là, ouais, c'est pas Captain America, roi d'Amérique, hein, le super-héros nationaliste. Hein, c'est vraiment un super-héros face à des forces du mal encore beaucoup plus supérieures, beaucoup plus puissantes que lui. C'est un film assez noir, assez pessimiste, comme The Dark Knight. Et voilà, moi je trouve que j'aime bien.
Moi j'avais beaucoup aimé le premier Captain America justement pour le côté héros. C'est un film qui était premier degré et c'est justement toute cette tradition moi qui m'énerve et c'est pour ça moi que j'arrête les Marveleries parce que voilà, ça commence à bien faire.
Allez, on écoute un premier morceau de musique et on se retrouve après pour parler du festival
Hallucination Collective.
C'est parti.
Je sais pas ce que c'est. C'est incroyable.
Deuxième partie de ce Confluence Cinéma, et du coup, on va parler du festival Les Hallucinations Collectives.
Oui, oui. Et d'ailleurs, je crois que c'est la troisième édition sous ce nom.
Oui, et la septième, avant, c'était l'Étrange Festival.
Voilà, c'est une aventure qui a commencé, que Cyril Despontin a conçue avec son équipe de Zone Biz, hein, qui est un collectif lyonnais spécialisé dans les séances de films de genre, mais pas que, vraiment le genre transgressif, extrême, et qui a toujours travaillé avec le comédien. J'en parle parce qu'on a été à Brume, l'un des, on a été pas les premiers, genre, mais on a été dès le départ avec eux. On les a invités plusieurs fois ici. Despontin est venu avec ses collègues à l'époque où c'était pas encore trop médiatisé. Et ils ont vraiment commencé avec 3 francs, 3, 6 sous. Les premiers, ses premiers budgets étaient... était de 900 euros, 1000 euros, 2000 euros. L'année dernière, il a réussi à avoir 10 000 euros. Cette année, je pense qu'il a beaucoup plus parce que, comme je l'ai dit en début de, d'émission, sa double activité de directeur artistique du PIF à Paris lui a permis de ramener beaucoup de gens, beaucoup de célébrités hein, à Lyon. Maintenant, il y a les, l'équipe de Mad Movies qui est là, les Christophe Gans, les Pascal Laugier. Et ça lui permet également
les
de peaufiner.
Les Bires, les Le Maire, voilà, etc.
Et ça lui permet surtout... De peaufiner des programmations vraiment assez originales, je trouve, au fil des années, même s'il faut quand même se rappeler qu'en 2010, il avait quand même, alors qu'il n'avait pas de budget, hein, il avait Mammouth avec Kerven qui était venu, il avait Enter the Void avec Gaspard Noé qui était venu.
Ouais, ouais.
Donc c'est vraiment un coup de chapeau que je donne à Cyril Despontin et je pense qu'on aura le plaisir de l'interviewer pendant le festival.
Puis ça cartonne, hein, ils ont fait 4000 spectateurs l'an passé. 4000 oui, hein. Sur quoi ? Sur 5 jours à peu près. Mmh. Puis, ce qu'il faut dire, c'est que la programmation est super pointue quand même.
Oui. Alors déjà, en ouverture, dès ce soir, il y a Young Detective, le nouveau film de Choi Ark, qui est un réalisateur qu'il adore au même titre que moi. Et je lui en remercie parce que grâce à lui, on va pouvoir voir un Choi Ark à Lyon. C'était le cas déjà de son dernier film. Je ne sais plus lequel c'était. Il avait programmé un Choi Ark également l'année dernière.
Bah c'est celui-là, c'est Young Detective.
Non. Il avait un autre film avec... il avait programmé la première... La première parce que c'est la suite de...
Oui, c'est le préquel. Là.
De Detective D. Voilà. C'était Detective D qu'il avait programmé. Ensuite, l'année dernière, c'était un film avec Jet Li. En 3D que je n'avais pas trouvé vraiment bon et là c'est Young Detective, c'est la préquelle de Detective
et Rise of the Sea Dragon,
encore un Rise et c'est génial ça parce qu'on est même si Young Detective D avait une bonne distribution grâce à Worldside, je ne suis pas sûr qu'on pourra avoir ce film là sur grand écran, donc coup de chapeau et puis
et il est en compétition aussi,
hein. Il est en compétition parce qu'il y a une compétition depuis 2-3 ans avec un jury,
et cette année elle évolue, justement il y a une nouveauté, ce n'est plus un jury qui va faire le palmarès, mais en fait, c'est les spectateurs, c'est le public qui va voter.
Vote.
Un peu comme à Jérémie, tu sais, avec le système de satisfaction, bien, pas bien, etc., qui vont voter. Et je trouve ça très bien, puisque le jury, il fallait quand même le reconnaître, était très, très beau, avec des beaux invités. C'est un peu accessoire.
Oui.
Alors, autant va participer le public, c'est une bonne idée, je trouve, tu vois. Et justement, en compétition, il y a beaucoup de trucs intéressants quand même cette année. Il y a un film qu'on avait vu tous les deux à Cannes l'an passé, qui était Shield of Straw de Takashi Miike, que tu aimes beaucoup et que j'ai beaucoup aimé aussi.
Et j'en avais parlé avec Trédé Spontin juste après la projection à Cannes. Il a dit c'est génial.
Oui, il s'est fait huer. Nous, on avait beaucoup aimé. Un gros film d'action qui tombe progressivement dans un film, un face-à-face, un duel mental qui était assez intéressant, assez original en tout cas. Il y a le nouveau film des metteurs en scène de À l'intérieur et de Livide, hein, donc Julien Maury et Alexandre Bustillo qui reviennent. Aux yeux des vivants, qui est apparemment, d'après les premières rumeurs, les premières critiques, un film à la Stand By Me, tu sais, de Rob Reiner, adapté un peu de Stephen King.
Ce serait le troisième épisode d'une trilogie qu'ils ont commencé avec À l'intérieur en 2009. Hein, et selon l'interview qu'ils ont accordée à Mad Movies de ce mois-ci, ça serait la fin d'une trilogie et ils passeraient éventuellement à autre chose après.
C'est apparemment le récit d'une... Un récit initiatique sur les ados, apparemment.
Mais apparemment, ça reste quand même un film à beaucoup de références.
Il y a donc Young Detective, tu l'as rappelé. Il y a The Babadook, que j'ai eu la chance de voir à Gérardmer, qui est vraiment extraordinaire, qui a raflé quasiment tous les prix, sauf le Grand Prix. Et c'est un film à soutenir, car c'est un premier film d'une jeune réalisatrice australienne, Jennifer Kent, qui est vachement bien, sur un peu à la Polanski, sur le deuil, sur l'enfance, meurtrie, etc. Une relation entre une mère et un fils qui était vachement bien, entre humour et vraie terreur pure, c'était génial. Donc celui-là, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment une pépite. Il y a un film que je ne connais pas du tout qui s'appelle R100, réalisé par Hitoshi Matsumoto, qui est un habitué du festival Alu Collective. Hein. Et apparemment, voilà, c'est encore de la folie pure. Il y a du bondage, il y a du SM. Bref, il y a tout ce que tu aimes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a The Double aussi en compétition. Le nouveau film avec Jesse Eisenberg, donc le Zuckerberg du film de Fincher. Hein. Et c'est réalisé par Richard Yende, qui est un acteur qu'on connaît bien dans les comédies américaines et dans les comédies anglaises. Il fait, j'ai pas vu, mais tout le monde me le recommande, en tout cas, la série The Hit Crowd. Et il paraît que c'est vraiment génial. Et il passe donc à la mise en scène, c'est son deuxième film, avec une histoire d'un homme interprété par Eisenberg, qui va, un homme normal, qui va voir son double progressivement et basculer dans la folie. Donc encore, on voit un peu les grandes thématiques déjà de ce futur palmarès. Et il y a un film aussi français, Au nom du Fils, avec le metteur en scène qui viendra, Vincent Lanoux, un film apparemment qui parle de religion, de foi et de radio, puisque l'héroïne est une héroïne de radio. Évidemment, il y a de la pédophilie. Quand on parle de religion et de prêtre, il y a ça. Et tu ne vas pas aimer Hakim, puisque c'est un revenge movie, apparemment. Donc, une sorte de vigilante.
Ah, mais ça dépend. Ça dépend le point de vue, la conclusion. Hein.
Et il y a notre ami Philippe Naon qui est dedans. Cette vieille baderne de Naon qui traîne ses guêtres dans tous les films bis français depuis 20 ans. Et qui sera, je crois, présent. Je crois qu'il sera présent.
Et cette année, il y a une carte blanche à Pascal Laugier, après Nicolas Beaucrieff. C'est Pascal Laugier qui proposera une carte blanche avec des titres. Alors, il y a le locataire de Polanski.
Inattendu.
Il y a le locataire de Polanski. Oui. Que mine de rien, je reverrai bien sur l'écran. Il y a l'Exorciste 2 de John Borman.
Attends, juste pour revenir sur le locataire, Laugier donc, s'explique sur ses choix sur le site internet des Alus Collectives. Il dit en fait, juste parce que c'est déjà un cinéma de genre français, on retrouve toute la bande du Splendide qui est assez drôle. Aller voir le film qui parle en anglais, voir Balasco en anglais, c'est très très drôle. Et c'est un film, il dit, qui est vraiment magnifique de terreur, mais aussi avec beaucoup d'humour. C'est du Polanski. Hein. Et c'est une copie 35 mm qui a été prêtée par la Cinémathèque de Toulouse. Donc je vous recommande vraiment Le Locataire et c'est vraiment un très bon choix de la part de Pascal Laugier. Et donc tu l'as dit, il y avait l'Exorciste aussi 2 l'Exorciste Borman, 2. Alors il le défend en réalité en 77. Hein. Pour lui c'est un film qui est complètement détesté mais qui n'est pas si mauvais que ça. Il y a un côté nanar mais il y a quand même des trucs assez intéressants dans le film pour lui. Quoi.
Christophe Gans et Michel Simon, qui est un grand fan de John Borman, qui a écrit un livre du même calibre que son Stanley Kubrick, le défend.
Donc, oui. Mais par contre, pas Friedkin, parce que Friedkin, j'ai noté une citation, il dit que c'est l'un des plus gros tas de merde jamais produits à Hollywood.
Tu vois. Oui, non, mais ça n'a rien à voir par rapport au premier.
Oui, non, mais tu connais la roublardise légendaire de Friedkin. Il va programmer aussi Ces garçons qui venaient du Brésil, un film de Franklin Schaffner, dont celui qui a fait La planète des singes, Patton, Papillon avec Steve
McQueen. Avec Gregory Peck qui prête un nazi.
Ouais, et Laurence Olivier. Et c'est un film qu'il a voulu loger parce que voilà, malheureusement, Schaffner est un bon metteur en scène, mais on se rappelle plus souvent de ses films plutôt que de son nom. Et je trouve ça très bien justement de valoriser un metteur en scène comme ça, un bon artisan hollywoodien d'autrefois. Et c'est un film radical avec une fin d'une rare violence apparemment. Je ne l'ai pas vu celui-là. Mais il le défend pour ça. Il aimerait faire connaître davantage le travail de Schaffner en fait, tout simplement. D'accord. Il y a aussi Le Cabinet des Curiosités. Il y a un film assez cultissime qui est Les Aventures de Bukharu Banzai à travers la 8e dimension, donc un vrai film d'aventure, un film de super-héros coloré un peu des années 80. Et il y a Baxter que je vous recommande, qui est un grand, grand film de genre français que j'adore. C'est une sorte de schizophrénia ou de maniaque, mais avec un chien à la place du tueur en série, où on suit un chien tueur. Et on est dans sa tête et ça marche vraiment, vraiment bien. Et c'est français pour une fois. Et il y aura le metteur en scène Boivin qui sera là, Jérôme Boivin. Donc il faut vraiment le soutenir, aller voir ce film.
D'accord. Alors tu peux nous rappeler les dates un petit peu s'il te plaît ?
Alors ça sera du 16 au 21 avril au cinéma Le Comédia. Donc
dans le 7e arrondissement. Il y a beaucoup de trucs. Hein.
Oui, oui.
Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill, Vigilante de Lustig, des films de N.L. Lauter comme Frankenhooker, enfin vraiment des petites pépites, trash, bis, jungle urbaine comme ils disent, assez appétissant tout ça.
Ça marche. Bah écoutez, on va écouter une nouvelle chanson et on se retrouve ensuite pour parler justement de ces fameuses adaptations de jeux vidéo au cinéma. Let's kill youth, let's kill age. Life too short to get old. You're not gonna cry for the rich. You're not gonna laugh at the poor. Die like just die. Die like just die. Oh. Everything comes back except you and me. But it's great, tears and pain. Nature, sunshine and rain. Die like just die. Dernière partie de ce Confluence Cinéma et nous allons donc revenir un petit peu sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Alors on peut peut-être commencer chronologiquement un petit peu par les premiers. Alors je sais pas, moi je pense à Tomb Raider. Voilà, c'est...
Ah, il y en a pas eu plus tôt. Ah oui, mais avant il y a eu Super Mario le film qui était bien naze.
Ah oui, oui, oui.
Ah oui, c'est vrai.
Avec Bob Hoskins.
Bah, que j'ai un des films que j'ai vu et revu durant ma petite jeunesse.
Oui.
Quand c'est il passait sur Canal Plus.
Oui, avec Dennis Hopper qui jouait le grand méchant.
Ouais, voilà. À tout à l'heure, Alligator.
Ouais, oui, avec des sacrés monstres.
Ouais, c'est vrai que même Mortal Kombat, c'était peut-être avant.
Mortal Kombat, ouais.
Que je n'ai jamais vu.
Eh ben moi non plus.
C'était pas mal hein, comme film d'action pour gamin, moi en tout cas j'avais bien aimé quoi, je me rappelle à l'époque.
Mais c'est vrai que généralement, il y a quand même eu un gros passage à vide et il faut quand même attendre que l'animation se soit perfectionnée, que les effets spéciaux soient aussi perfectionnés pour que le genre explose finalement au cinéma. Et justement, Tomb Raider est l'un des premiers vrais gros succès.
Oui, mais alors moi je l'ai vu à l'époque, je ne l'ai pas vu depuis. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des premiers films où je voyais Daniel Craig.
Oui, c'est vrai.
Et, mais dans mon souvenir, il n'y a pas énormément d'effets spéciaux.
Bah, c'est un gros film d'action. Quoi.
C'est,
voilà,
film d'action. C'est comme Silent Hill de Christophe Gans, hein, lui qui est un gros fanboy, qui est aussi fan du cinéma que de la littérature, que du moins que du jeu vidéo. Hein. C'est cette génération de réalisateurs qui adore le jeu vidéo. Et il adapte le fameux jeu vidéo qui date de 95, qui a été tout droit créé au Japon. Et il en fait un film effrayant, avec bien sûr toutes ses influences personnelles, ses obsessions, le cinéma de Bava, le cinéma italien, etc. etc. Mais il y a, à proprement parler, ce n'est pas un film qui adopte la mise en scène jeu vidéo. Hein. Ce qui sera le cas, là peut-être qu'on
oui,
se déplace un peu du sujet.
Il y a un sous-genre. Oui.
Mais il y a vraiment un sous-genre, c'est le film de jeu vidéo. C'est des films qui adoptent la mise en scène jeu vidéo. Je pense à Rec, je pense à Doom, le film qui avec
adapté d'un jeu vidéo là aussi,
adapté d'un jeu vidéo où là on a clairement la caméra pas dans tous les
le
plans.
Le point of view, ce qu'on appelle.
Voilà, la caméra qui adopte le personnage de la première personne.
Ouais. Oui, c'est ça.
Donc la caméra qui se trouve à la place du flingue, tu vois, à la limite à l'endroit du viseur du sniper. Effectivement.
Ce qui est intéressant, effectivement, c'est les passerelles entre les différents arts, finalement. Le cinéma a inspiré le jeu vidéo et inversement. Par exemple, on peut prendre John Carpenter. On parle souvent de John Carpenter, a beaucoup inspiré les créateurs de jeux vidéo. Il a inspiré Hideo Kojima pour le personnage de Snake dans Metal Gear. C'est un personnage qui sort tout droit de Escape from New York, par exemple. Ou par exemple, Duke Nukem, le personnage aussi, est inspiré de John Nada, de Invasion Los Angeles. Donc, à des passerelles comme ça, le jeu vidéo a récupéré aussi une certaine cinématographie. Hein. On dit des cinématographiques, d'ailleurs, pour tu sais, les petits films entre les missions, entre les parties. Et donc, il y a plein de passerelles qui se créent. Et effectivement, maintenant, le cinéma a récupéré aussi le style des jeux vidéo. Tu as cité quelques noms, mais on pourrait dire aussi Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, toute la fin avec la traque de Ben Laden, c'est du point of view, hein. On dirait presque Call of Duty Al-Qaïda, on pourrait dire, mais c'est exactement ça, quoi. Et c'est comme si on était à la place justement du sniper et qu'on ferait une mission voilà, au milieu des talibans, par exemple. Mmh. Et donc, il y a vraiment une sorte de digestion qui s'est opérée. Et on peut citer des films aussi qui ne sont pas des jeux vidéo, mais qui aurait pu l'être, c'est Speed Racer de Wachowski.
Mais il y a eu un jeu qui s'appelait Speed Racer.
C'est sorti après, c'était à la base un dessin animé, Speed Racer.
T'es sûr qu'il n'y a pas eu avant un...
Je crois qu'il est après, Hakim. Je crois qu'il est sorti en même temps que... voilà, les adaptations de jeux vidéo de films. Et c'est un film qui est intéressant. Voilà, tout le début, il y a ce qu'on appelle le fantôme, qui est vraiment un truc de bagnole, comme dans Sonic, etc., qu'on retrouve principalement dans les jeux vidéo. Et il y a cette mutation des genres entre la bande dessinée, le dessin animé, le jeu vidéo, le film, qui est très intéressant. Et c'est un film qui est, je l'ai vu à l'époque en salle, on était trois dans la salle avec deux gamins, qui s'est fait honteusement massacrer par la critique, qui devient culte avec le temps. Et je trouve que c'est l'un des plus intéressants des Wachowski. Même Matrix, il y a du jeu vidéo dedans, dans l'inspiration, dans la mise en scène. Et il y a un film, je trouve, qui va concrétiser toute cette mutation, toute cette passerelle entre les arts. C'est Scott Pilgrim de Edgar Wright en 2010, qui commence avec le logo Universal en 8 bits. Hein. C'est-à-dire en petits dessins animés d'autrefois de jeux vidéo comme Tetris ou comme Mario ou Zelda. D'ailleurs, Zelda, il le joue d'ailleurs à la guitare. Et c'est un film qui reprend tous les codes. Voilà, on retrouve Dance Dance Revolution, on retrouve dedans. C'est une parodie, c'est Ninja Revolution dedans. On retrouve tout cet amour-là, mais d'une génération qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Mmh. C'est les trentenaires qui jouent à l'époque sur la NES ou sur la Mega Drive. Et on retrouve cet amour-là, ce côté vintage, qui est super intéressant et super bien traité, je trouve, dans Scott Pilgrim, et qui devient progressivement aussi un film occulte. Comme à la fin, le héros meurt et puis il a une vie en plus, comme les jeux vidéo. Enfin, il y a plein de trucs assez amusants, assez ludiques par rapport à ce médium, qui est très intéressant, je trouve, chez Edgar Wright et chez les Wachowski en général. Et
alors récemment, du coup, un petit peu les coups de cœur que vous avez pu avoir sur des adaptations
Moi, je t'avoue, c'est ceux que j'ai plus ou moins cités, puisque objectivement, je trouve qu'il n'y a pas eu de très très bonnes adaptations de jeux vidéo en général.
Silent Hill de Gaspard Noé, non, de Christophe Gans, mais qui date un petit peu, qui date de 2007.
Oui, ouais, je crois à peu près.
Où voilà, c'est un univers qui se réapproprie, donc l'univers du jeu vidéo, mais qui le se réapproprie en introduisant ses obsessions personnelles, ses passions personnelles, ses influences personnelles, son amour pour le cinéma italien. Et je trouve ça assez intelligent que de, comme pour l'adaptation de bande dessinée, de calquer simplement, basiquement, le concept sans y apporter une quelconque touche personnelle.
Et comme Rodriguez sur Sin City, par exemple.
Voilà, exactement. Mais non, je trouve que Silent Hill est une adaptation. Après, pour être honnête, il n'y a pas eu de grande réussite. Ouais. Il y a eu le Prince of Persia, non ?
Ah oui, je l'ai vu, celui-là, c'était pas terrible.
Avec Jack Gyllenhaal.
Ouais, et avec Gemma Arterton, etc. Non, c'était vraiment pas terrible. C'était assez boursouflé, justement, pétri d'effets spéciaux, assez cheapos. Le film s'est planté d'ailleurs complètement. Il surfait à l'époque sur les succès de Pirates des Caraïbes, etc. Toutes ces adaptations à droite à gauche, justement, pour accoter de l'argent et qui surfent, voilà. Je préfère voir Tetris le film plutôt que ça, tu vois.
Voilà. Ça a l'air quand même un bon scénario, hein, parce qu'une heure et demie de Tetris. Hein.
Ils sont capables de tout. Hein. Ils vont nous faire monopoler le film. Alors, je veux dire, Tetris, pourquoi pas. Hein. Ouais, ils ont bien fait Lego le film dernièrement, qui était vachement bien. Alors, pourquoi pas ça, hein.
Ok, bah écoutez, messieurs, on va se retrouver rapidement pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y aura de beau au programme ?
Ah, ça, il faut demander à qui. Moi, je ne serai pas là la semaine prochaine.
Tu ne seras pas là. Je serai là seul, en tête-à-tête avec Amaury. Mais pour l'instant, chers auditeurs, je ne peux rien vous dire, car je n'ai pas feuilleté le programme.
Il y a plein de comédies qui sortent françaises. Il y a Babysitting, qu'a fait au bon Dieu,
Need for Speed. Oui, voilà. Qu'on a fait au bon Dieu, là, cette comédie sociale avec Christian Clavier.
Qui n'a pas l'air dégueulasse, pour une fois.
Ah, moi, évidemment, ça me fait rire. Donc, du
ouais,
coup,
moi aussi.
J'irai.
Ok, et bah écoutez, bonne semaine et à très bientôt sur Brume.
Merci bien.
Ciao.